Radio Okapi.
Le journal Mireille Boukessamoukine.
Okapi.
Ils sont au nombre de 11, tous des hommes en course pour la présidence de la République démocratique du Congo. La liste provisoire des candidats à la présidentielle 2011 est publiée depuis hier soir. Le syndicat Titouri peut garder son calme. Les salaires des enseignants des mois de juillet et d'août dernier n'ont jamais été détournés. Le CECOP qui le dit précise que ces salaires sont disponibles à la succursale locale de la Banque centrale. Affaire CPI contre Calixte Mbaushimana. Début ce vendredi des audiences de confirmation des charges contre cet ancien secrétaire exécutif des FDLR. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. La liste provisoire des candidatures à l'élection présidentielle publiée depuis hier soir. Ils sont à 11 et il n'y a aucune femme. Le président de la CENI annonce la publication des listes provisoires pour la députation nationale dans les prochains jours. Daniel Ngoy Moulunda au micro de Michel Kifindangoy.
Cette publication vient confirmer une fois de plus l'engagement du bureau de la CENI d'organiser les élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées dans le délai constitutionnel. La réception depuis hier des matériels électoraux, de bureaux de vote et des centres locaux de compilation des résultats à l'aéroport de Ndjili en constitue la preuve éloquente que les élections sont imminentes dans notre pays. Nous publions aujourd'hui la liste des candidatures à l'élection présidentielle. Quant à la liste des candidatures à la députation nationale, elle sera publiée ultérieurement. En effet, le bureau de la CENI a reçu 11 candidatures à l'élection présidentielle et 7200 candidatures à la députation nationale traitées par nos différents bureaux de réception et de traitement des candidatures BRTC en sigle.
La CENI rappelle aux candidats à la présidentielle que la période de dépôt de recours est fixée du 16 au 19 septembre prochain. Elle souligne que les recours en contestation des candidatures sont à déposer devant la Cour suprême de justice. La CENI a commencé à réceptionner depuis mercredi dernier un lot important du matériel électoral. Le rapporteur de la CENI précise que c'est la MONUSCO qui va acheminer tous ces matériels atterrés à Kinshasa dans les 15 grandes villes du pays. Et à partir de là, la CENI va les dispatcher dans les 210 points de chute. Et hier jeudi, un avion de la MONUSCO a justement acheminé à Mbandaka 5 tonnes de ce matériel. À Matadi, on apprend également l'arrivée toujours hier d'un navire transportant du matériel électoral. La CENI indique que le déchargement de cette cargaison interviendra aujourd'hui. Les deux chambres du Parlement ont ouvert hier la session ordinaire de septembre, qui est la dernière de cette législature, une session essentiellement budgétaire. Le président du Sénat, qui reconnaît que la présente session risque d'être perturbée par le rythme de la campagne électorale, évoque la suspension des travaux pour permettre aux sénateurs de se rendre dans leurs circonscriptions respectives. Cependant, il a exclu toute interruption du fonctionnement régulier du Sénat avant d'avoir voté la loi budgétaire. Le président du Sénat a ainsi demandé au gouvernement de déposer au bureau de l'Assemblée nationale le projet de la dite loi conformément à l'article 126 de la Constitution. Les salaires des mois de juillet et d'août dernier des enseignants de 14 écoles conventionnées catholiques de l'Ituri n'ont jamais été détournés. Ces salaires sont disponibles à la succursale locale de la Banque centrale et n'ont jamais été payés, faute de listing suffisant pour tous les 2500 enseignants des écoles primaires informatisées et non budgétisées de la place. C'est le directeur local de CECOP de la province orientale 2 qui donne ses précisions. Il réagit ainsi aux plaintes sur les suspicions de détournement formulées auprès des autorités locales et de la presse par le Sinecat. Jean-Paul Bassila.
Jusqu'hier jeudi matin, Florencie Lelou, secrétaire principal du Sinecat Ituri, voulait comprendre pourquoi la direction du CECOP de la province orientale 2 refusait de libérer les salaires des mois de juillet et d'août dernier pour 14 écoles primaires conventionnées catholiques, mais aussi de nombreux enseignants des 6 autres écoles primaires. Selon lui, ces salaires étaient soit déjà détournés, soit en voie d'être détournés. Il y a une semaine, le Sinecat Ituri avait saisi l'autorité du district sur les dossiers, menaçant d'aller en grève au cas où les salaires ne pas payés en dehors 14 jours. Contacté, Kabuku Rabin Kiamulesere, directeur du CECOP Cop en province orientale 2 a été indigné de constater que les cinécates ne soient pas venus s'informer auprès de ses services pour avoir la bonne information. Selon lui, les salaires recherchés concernent au moins 2520 enseignants et toute sa juridiction qui sont disponibles à la succursale locale de la Banque Centrale. Il explique que le paiement tarde à s'effectuer faute d'au moins 1352 listings d'un accord envoyé par sa hiérarchie à partir de Kinshasa. M. Kabukura a même exhibé devant la presse les correspondances entre lui et sa hiérarchie, demandant que les listings qui manquent soient rapidement expédiés pour que le paiement ait finalement lieu. Bounia, Jean-Paul Bassila, Radio Okapi.
Les magistrats du Nord Kivu, regroupés au sein du Sinamag, se disent irrités par l'attitude des politiciens congolais. Depuis 2010, le gouvernement avait annoncé l'amélioration de leurs conditions de vie en leur octroyant un salaire mensuel de 1 600 $. Cette promesse n'a pas été tenue jusque-là, d'après eux, qui se basent sur la déclaration du chef de l'État pour exiger du gouvernement la paye de salaire des magistrats avec effet rétroactif. Dans le cas contraire, le président du Sinamag affirme qu'il reviendra au gouvernement d'en assumer les conséquences. Alexis Lubanda Chabani au micro de Radio Capi.
Le chef de l'État reconnaît qu'un magistrat touche 1 650 $, alors que le dernier magistrat touche 400 $. Les magistrats disent que le gouvernement congolais doit payer les salaires que le gouvernement avait prévus pour les magistrats avec effet rétroactif. Le chef de l'État a été conscient que ce n'est pas normal. Et nous sommes contents de ce discours-là parce qu'il a mis sur la place publique ce qui était caché pendant plusieurs mois. Nous demandons à M. Adolphe Muzito d'appliquer les recommandations du chef de l'État. Au cas contraire, on va fermer les bureaux et c'est lui, le Premier ministre, qui va endosser la responsabilité, les conséquences de ce qui va arriver.
Les magistrats annoncent par ailleurs la tenue aujourd'hui d'une assemblée générale extraordinaire de leur corporation pour décider de la question liée à leurs conditions de vie et de travail. Parlons à présent du pont Route-Rail reliant Kinshasa et Brazzaville. Une étude de faisabilité financée à au moins 7 millions de dollars par l'ABAD et menée par un bureau français se déroule depuis quelques jours à ce sujet sur les rives de la RDC et du Congo-Brazzaville. Selon un expert du ministère du Plan, cette étude devra préciser un certain nombre de paramètres comme le lieu où ce pont doit être construit, mais aussi les avantages d'un tel ouvrage pour les deux pays. En attendant les conclusions de cette étude, qui doit durer 2 ans, le chargé des infrastructures au ministère du Plan rappelle les enjeux de ce projet. John Kukulu, au téléphone de Dona Madimba.
L'idée de ce projet est née depuis très longtemps, comme vous le savez, de même à l'époque coloniale, quand on parlait de l'Afrique équatoriale, il s'est dessiné ces différentes idées. Et au fur et à mesure qu'il y a eu évolution, même pendant la Deuxième République, à un certain moment, il y a eu des avancées, même pour des raisons politiques, tantôt c'est la RDC qui ne veut pas, tantôt c'est l'autre Congo qui ne veut pas. Mais dernièrement, l'idée est revenue à la surface à cause de ce que nous appelons la transafricaine. Et il a été constaté qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, toutes les capitales de ces pays sont réunies par route. En Afrique australe, c'est déjà fait, mais il ne reste que l'Afrique centrale. C'est comme ça qu'il a été décidé que les États voient dans quelle mesure ils peuvent tout le tronçon manquant pour qu'on puisse réunifier par route les capitales des pays de l'Afrique centrale avec en filigrane l'idée de la transafricaine.
Notez que cette étude concerne aussi le projet de prolongement du chemin de fer tronçon Kinshasa-Ilebo. La Cour pénale internationale doit tenir pendant 4 jours, à dater de ce vendredi, des audiences destinées à confirmer les charges portées par le procureur contre Calixte Mbarushimana. L'informaticien rwandais, secrétaire exécutif des FDLR, est suspecté de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en 2009 dans l'est de la RDC. Si au terme de ces audiences, les juges confirment les accusations du procureur, Calixte Mbarushimana sera renvoyé en procès. Stéphanie Mopas, depuis la F.
La question clé de ces audiences est de savoir si le procureur parviendra à confirmer les charges portées contre Calixte Mbarushimana. Selon Luis Moreno Ocampo, l'informaticien rwandais aurait, avec les chefs des FDLR, fomenté un plan s'articulant en 2 étapes. D'abord, des attaques contre les civils du Kivu, ensuite une campagne de pression sur les gouvernements rwandais et congolais pour obtenir une part du pouvoir à Kigali. Les FDLR auraient donc opéré une sorte de chantage sur les gouvernements de Kinshasa et Kigali. Il s'est soldé par le massacre de centaines d'innocents. Si les massacres commis par les FDLR sont bien documentés, la tâche du procureur reste compliquée. Calixte Mbarushimana était réfugié politique à Paris lorsque les crimes ont été commis. C'est de là qu'il émettait des communiqués de presse et des entretiens aux médias internationaux qui auraient, selon l'accusation, entretenu la guerre. Une autre difficulté de taille attend le procureur. En délivrant un mandat d'arrêt contre le suspect arrêté à Paris en octobre 2010, les juges avaient estimé que sa participation au crime était certes importante, mais que son absence ne les aurait pas empêchés. Incarcéré à la prison de la CPI, le suspect nie toute participation dans les crimes. À La Haye, Stéphanie Maupas, agence Hirondelle pour Radio Okapi.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.
Okapi, Radio Okapi.